Bien, je vous dis à tous bonjour. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Ça va. Je puis tout pour celui qui me fortifie. Je le répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on est imprégné de la vérité, ça nous permet d'avancer. Gloire à Dieu. Donc, je suis content d'être avec vous ce matin. Merci au pasteur Dominique, à mon frère Fernand et puis à vous autres hein, de me recevoir parmi vous. Alors, ce matin, pour moi, c'est une grande tâche de pouvoir communiquer ce message de l'Évangile. La Bible nous dit que c'est une bonne nouvelle. Mais fort souvent, on ne la prend pas comme une bonne nouvelle. On la prend comme... presque une charge. Ah, encore l'Évangile, encore la Bible, encore ceci, encore cela. Ce qui vient, on peut même venir, là, on est là et puis notre esprit est bien loin. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore compris que c'est une bonne nouvelle. Pour ma part, depuis 81, j'ai compris que c'est une bonne nouvelle. Puis j'ai vu la manifestation de la bonne nouvelle dans ma vie jusqu'à présent. Donc, ce que le Seigneur a fait pour moi, il ne fera peut-être pas exactement la même chose pour vous, mais il fera pour vous. Amen. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour aujourd'hui et une bonne nouvelle pour demain. Quand je parle de demain, je parle dans le futur. Parce que la Bible nous dit pas mal de belles choses et j'aimerais vous communiquer cela. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Marc au chapitre 1, alors je ne sais pas si vous affichez, Marc chapitre 1, verset 14-15, il nous est parlé de Jean qui devait être livré, donc Jean le Baptiste. Et puis après, il nous est dit que Jésus alla, ça y est, prenez vos Bibles. Hein. Je vais essayer de ne pas trop vous faire afficher parce que ça risque de casser, ce n'est pas une étude biblique que nous faisons. Hein. Je vais vous amener une pensée dans les cœurs. Donc, il nous a dit, Jésus prêchant, là, ça me fait me retourner. Jésus prêchant l'Évangile. Alors, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous. Hein. Alors, je dis convertissez-vous parce qu'il y a un autre verset qui me vient, à l'esprit. Et croyez à la bonne nouvelle. Vous savez, tant qu'on ne croit pas à une bonne nouvelle, ça n'aura pas d'impact dans notre vie. C'est seulement à partir du moment où l'on croit à une bonne nouvelle que cela fait un impact dans notre vie. On nous voit changer. Notre manière d'être change. Notre manière de parler change. Notre manière de penser change. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une bonne nouvelle. J'aimerais vraiment que l'Esprit du Seigneur vous ouvre les cœurs et puis vous fasse recevoir cette bonne nouvelle au plus profond de vous-même. Je crois que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle est capable de trancher. Elle est capable d'aller jusqu'au profond de votre vie pour pouvoir vous montrer certaines choses. Comme je dis, lorsqu'on a tellement l'habitude de voir des choses terribles, lorsqu'on vous dit, mais bien sûr, ça va changer, on n'y croit pas toujours. Surtout, bientôt, il y aura les élections et je ne viens pas dessus. Ça va changer, et puis rien ne change. Mais Jésus, lorsqu'il vous dit que ça va changer, ça va changer. Amen. Lorsqu'il dit quelque chose, ça va se faire. Vous savez, nous qui vivons en Martinique, ou encore, je vais parler de façon plus globale, en France, eh bien souvent on se dit, mais ah ouais, pas ni rien en Martinique, pas ni rien en France. Ah, la France, ah, c'est pas bon. Vous avez déjà entendu cela, que ce soit en Martinique, que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe. Ceux-là même qui vivent. Mais, allez, j'étais à une année, j'étais au Burkina Faso. et avec des pasteurs de France, d'Afrique. Et puis à un moment donné, le pasteur de France, il a dit à des jeunes, « Ah, j'aimerais vous amener tous avec moi en France. » Quand je lui ai entendu dire ça, j'ai dit, « Là, tu sais pas ce que tu as dit. » Je peux vous assurer, il y avait une jeune, elle a pris ça au mot. Le problème, que lui, ce n'était pas son désir. C'était quelque, comme cela. Parfois, il faut faire attention lorsque l'on parle. Et là, la jeune était après lui, « Je veux venir avec toi. Je veux venir avec toi. » Elle doit tout laisser tout de suite, pour partir. Pourquoi? Parce qu'elle a, je ne vais pas dire qu'elle a reçu une bonne nouvelle, mais elle a semblé recevoir une bonne nouvelle. Et ça, c'était déjà dans son cœur. Elle vivait avec cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait envie de changer de monde. Lorsqu'on parle de l'Europe dans certains pays, eh bien, pour eux, l'Europe, eh bien, c'est comme tu vas marcher sur, je ne sais pas, sur du beau carreau comme ça partout. Et quand ils arrivent en Europe, malheureusement, mais malgré tout, il y a beaucoup qui sont bien. Donc, à partir du moment où ces personnes savent qu'elles vont traverser, elles payent, il y a de ceux qui sortent en Afrique et ailleurs, qui payent des millions, qui travaillent dur, les parents, les amis donnent de l'argent pour leur permettre de payer un passeur. Donc ces personnes vont tout donner parce qu'elles ont une image de l'Europe en disant qu'en Europe, elles vont se sortir d'affaires. Ce qui fait qu'elles vont, elles vont tout faire. Elles vont même commencer déjà à apprendre la langue. Elles vont commencer à voir ce qui se passe en France, en Angleterre et autres. Parce qu'on leur a donné une bonne nouvelle. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où c'est bon. Je suis content d'être en Martinique et vous. Alléluia. J'étais à Paris et j'ai laissé Paris, je suis rentré en Martinique. Parce que la Martinique, c'est bon. Alléluia. Elle a ses problèmes, elle a ses difficultés, mais c'est bon. Gloire à Dieu. Donc, Jésus, il a dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je vais m'arrêter sur ces quatre points. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit que le temps est accompli? Lorsque nous connaissons globalement la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Dieu avait mis l'homme dans un paradis. Ben là, c'était belle, mais c'était beau. Alléluia. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui fait que ça a amené la mort, ça a amené la maladie. Et là, le Seigneur, il a préparé, il a concocté dans sa tête, dans son cœur, un plan pour pouvoir réparer tout cela. Donc, lorsqu'il nous est parlé de ce temps qui est accompli, ce temps qui est accompli pour recevoir une promesse qui est en attente, c'est accompli pour recevoir un projet que Dieu a caché depuis longtemps. Mais il y a aussi derrière tout cela un jugement. Mais il n'y a pas qu'un jugement, il y a un relèvement. Il y a un relèvement et il y a une restauration. Ce qui s'était passé, mes bien-aimés, c'est que dans le jardin d'Éden, alors que le Seigneur avait tout préparé pour que l'homme soit bien, il leur avait juste dit de ne pas toucher un certain fruit. Et tant qu'ils ne l'avaient pas touché, ils étaient bien. Mais il est arrivé un jour où le diable, eh bien, il a enlevé, alors que l'homme avait tout. Hein. Quand vous lisez le début de la Genèse, c'était un endroit où c'était riche. Parfois, je regarde une émission sur les chercheurs d'or en Alaska et ailleurs. Je vois les gars qui... Mais c'est incroyable. Je dis, mais ils sont fous. Parfois, eux-mêmes, ils se le disent. Ils disent, mais on est fous. Mais quelle est leur vision? Leur vision, c'est l'or. Ils vont, ils vont dans des torrents. Il faut qu'ils s'attachent, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a de l'or. Et lorsqu'on leur dit, on va chercher de l'or, quand ils arrivent, ils voient ce combat, cette difficulté, ils vont dire, c'est vrai que c'est difficile, mais ils ont une vision, c'est d'aller prendre cet or. D'autant plus qu'ils ont déjà vu certains qui se sont enrichis. Alors ils vont tout faire pour aller chercher cet or. Lorsque je regarde la parole de Dieu, lorsque je regarde la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle-là peut équivaloir à de l'or. Mais même plus que de l'or, des diamants, des pierres précieuses. Alléluia. Donc le Seigneur, lui, dans la mesure où tout ça s'est cassé, pourquoi? Parce que le diable, il a réussi à mettre une insatisfaction dans le cœur de l'homme. Une insatisfaction. Pourquoi? Parce que, bon, ça commençait à bien faire. Et il leur a dit, mais non, mais si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu, vous serez peut-être même comme lui-même. Et donc, la Bible nous dit qu'à un moment donné, la femme, lorsqu'elle a regardé le fruit, elle a vu que c'était bon pour ouvrir l'intelligence, etc. Parce qu'il y avait cette satisfaction alors qu'ils avaient tout. Dieu leur avait tout donné. Mais en fait, derrière cette insatisfaction, le diable a réussi en fait à les séparer de Dieu. Et du fait qu'ils soient séparés de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? La mort. À partir du moment où on est dans le péché, cela veut dire qu'ils ont désobéi à Dieu. Et à partir du moment où ils sont dans le péché, à partir du moment où ils sont dans la faute, à partir du moment où ils sont dans la désobéissance, la vie de Dieu qui coulait sur eux, cette vie-là n'est plus. En fait, ils ont mis un barrage à cause de leur insatisfaction. S'ils étaient restés là, nous, aujourd'hui, on n'aurait pas eu tous ces problèmes que nous voyons. Mais bon, voilà, la chose est ainsi faite, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais l'histoire peut continuer d'une autre manière. Donc, et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y a, à cause de cette tromperie, il y a le péché est entré dans le monde. Le livre de Romains, chapitre 5, verset 12, il nous dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Non seulement ils ont péché, ils sont morts, mais la Bible nous dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous, lorsque l'on entend parler de Dieu, eh bien, on voit les choses différemment. Et souvent, beaucoup disent, mais la Bible nous dit des choses. Mais Dieu dit, mais on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Le péché, la désobéissance. Ça fait comme une sorte de toit qui est là. Il y a le toit qui est là et puis le plafond qui est là. Et ça empêche, ça nous empêche de voir le ciel. Ça nous empêche de voir les bénédictions. Ça nous empêche d'être en communion avec Dieu. Et tant qu'on va vivre dans cela, on ne pourra pas rentrer dans la communion avec Dieu. Et dans la mesure où on n'est plus dans la communion avec Dieu, la Bible nous montre, mes bien-aimés, qu'on ne peut pas recevoir cette paix, qu'on ne peut pas vivre bien. Mais il y a un changement. Donc, la Bible nous fait comprendre, si je lis Romains 3, versets 9 à 18, la Bible nous montre que vraiment, il n'y a pas, dans tous les hommes, il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Pour autant, la Bible nous dit que Dieu est amour. Comment est-ce qu'un Dieu plein d'amour peut laisser son peuple, peut laisser sa créature vivre loin de lui? Dieu, c'est vrai, nous avons péché, l'homme a péché. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare pour chacun d'entre nous, il prépare pour l'humanité ce que nous appelons un plan de salut. Et ce plan de salut, c'est pour pouvoir permettre à l'humanité de sortir de la malédiction, de la désobéissance, de sortir sous la puissance du diable, de sortir dans cette misère dans laquelle on est plongé depuis des siècles pour pouvoir entrer de nouveau dans ce que Dieu a préparé. Cela veut dire tout ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, que nous puissions le retrouver. Est-ce que vous aimeriez y être? Donc, il a préparé un plan de salut. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, verset 15, nous voyons ce plan de salut va se manifester par un combat spirituel. Ça va se manifester par un conflit. Et le diable qui a amené le peuple à pécher, le diable qui a amené le peuple à se détourner de Dieu, Dieu a dit la descendance de la femme, t'écrasera la tête. Mais toi, tu lui blesseras le talon. Donc, Dieu nous montre qu'il y aura la manière dont il va nous sortir de l'affaire. Ce n'est pas un conflit, c'est un combat qui va être instauré. C'est vraiment une guerre entre la descendance de la femme, et nous avons compris qu'il est fait mention de Jésus, la descendance de la femme, contre le diable. Et la descendance de la femme qui est Jésus, c'est Jésus, lui, il va venir pour pouvoir faire quelque chose de terrible pour nous. Et Dieu va commencer par appeler un homme qu'on appelle Abraham. Abraham. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, il appelle Abraham. Il appelle Abraham à sortir de sa maison, à sortir de son pays, à lâcher tout ce qu'il avait pour pouvoir le suivre. C'est une forme de conversion, c'est un changement de route, c'est une autre direction que l'on prend. Il était là bien pourtant, c'était un homme riche, hein? Il était là bien, mais il a fallu qu'il laisse toute sa maison, toute sa patrie pour pouvoir suivre le plan de Dieu. Le pire, c'est qu'il ne connaissait pas tout. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons accepté Jésus, on ne connaissait pas tout. Moi, je ne connaissais pas tout. Et même jusqu'à présent, d'ailleurs, je ne connais pas tout. Mais je connais quand même suffisamment de choses pour me dire, c'est une bonne nouvelle, reste-y. C'est une bonne nouvelle, ne change pas. C'est une bonne nouvelle. Accroche-toi. Si tu sens une faiblesse, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie aux frères, crie aux sœurs, crie à l'Église pour pouvoir t'encourager à tenir ferme. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle-là, elle est oui et amen. Donc, le Seigneur, il a appelé Abraham, et de par Abraham, c'était la préparation pour amener Jésus. De par Abraham, il a appelé une nation qu'on appelle Israël, et la Bible nous dit que dans Abraham, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va amener la bénédiction de Dieu, non seulement à son peuple Israël, mais encore à toutes les nations, à toutes les familles de la terre. Quel est le nom de ta famille? Pardon? Martial. Je connais la famille Martial. Martial, votre nom est inscrit dans cette bénédiction d'Abraham. Quel est le nom de ta famille? Péronnet. Le nom de Péronnet est inscrit dans ce projet-là. Amen. Chacun d'entre nous, nos noms sont inscrits dans ce projet de vie, dans ce projet de gloire, dans ce projet que Dieu a préparé. Et là, comme je dis, c'est une histoire d'amour parce que n'oublions pas qu'on l'a rejeté. On a rejeté Dieu. Et nous avons vu qu'il n'y a pas un seul qui cherche vraiment Dieu. Tous nous cherchons nos intérêts. Et même lorsque parfois nous nous mettons à prier, c'est davantage nos propres intérêts que nous cherchons. Mais on ne recherche pas réellement Dieu. Et dans la mesure où on ne recherche pas réellement Dieu, Dieu va te dire, mais attends, mais qui sont-ils qu'on fait? Recherche-moi. Et tu verras la différence. Et malgré le fait que nous ne recherchons pas Dieu, la Bible nous dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu m'a Mets ton nom de famille. Dieu a tellement aimé Zahir, Georges. Dieu m'a tellement aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Cela veut dire que Jésus, lorsqu'il est venu dans cette guerre contre le diable, la Bible nous montre qu'il a été, meurtri, Jésus. On l'a fouetté. Mais en fait, il était en train de prendre sur nous toute notre désobéissance. Tout ce que nous faisions, Jésus à la croix a reçu tout cela. Donc nous pouvons comprendre qu'à la croix, lorsque nous regardons la croix, nous devons voir deux choses. Nous devons voir premièrement la faillite de l'homme. Ma faillite parce que j'ai péché. ma faillite parce que je ne suis pas juste, ma faillite parce que mes pensées ne sont pas bonnes, ma faillite parce que mon cœur n'est pas bon, ma faillite parce que je marche chaque jour à l'encontre de la parole de Dieu, ma faillite, mais je dois voir aussi autre chose, une bénédiction, une espérance. Et cette espérance-là, mes amis, c'est ça la bonne nouvelle. De cette bonne nouvelle, bien le Seigneur, il veut nous faire comprendre les choses. Il veut nous amener à découvrir de plus en plus ce qu'il a préparé pour nous. Donc, lorsque Jésus arrive, il dit que le temps est arrivé. Avec Jésus, avec l'arrivée de Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Et lorsque nous regardons encore la parole de Dieu, si nous revenons sur les quatre points, il est parlé du royaume qui est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur, dans la mesure où nous avons tout perdu dans le jardin d'Éden, eh bien, il va recréer autre chose pour que nous soyons avec lui. Et cette bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, a un but. Premièrement, à la croix, le premier but à la croix, c'est de nous pardonner nos péchés, nous libérer de nos iniquités, nous détourner de nos mauvaises vies, nous amener quelque chose de nouveau dans les cœurs, nous amener vraiment à considérer les choses autrement, nous amener à comprendre ce que c'est que vraiment cette bonne nouvelle. Le temps où Jésus va nous acquitter, le temps où Jésus va nous libérer, c'est comme si nous sommes devant un juge. Le juge commence à dire, bon, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, alors voilà ce qui va vous arriver en prison. Et puis il y a un avocat qui vient, il y a quelqu'un qui vient, voilà, je donne temps pour lui, il vous défend, et puis il paye pour vous, et vous êtes libéré, vous êtes acquitté, vous êtes pardonné, vous êtes reconnu juste devant Dieu. Dieu vous a justifié, mais à travers Jésus. Et c'est ça la profondeur de l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile. Lorsqu'on comprend cela, on ne reste pas là comme ça à l'évangile, c'est à l'évangile. Non! Là, le cœur est touché, le cœur est rempli, le cœur, je vais dire ça, bourdonne. Et quand je me mets devant Dieu, alléluia, je ne suis pas là, c'est... Non, j'ai envie d'aller, j'ai envie de tenir Dieu. Non, pas vous. J'ai envie de le tenir. Au début de ma conversion, de temps en temps, ça continue quand même, au début de ma conversion, tous les jours, quand j'arrivais à la maison, je me mettais là à genoux. J'entrais dans une chambre, j'allais devant un lit. Et puis je me mettais à genoux, puis je parlais à Dieu. Je lui disais encore, Seigneur, pardonne. Je savais que Dieu m'avait pardonné. Je savais qu'il avait enlevé mon iniquité. Mais j'avais envie encore de lui demander pardon. Seigneur, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'allais en enfer. J'ai compris que j'étais loin de la face de Dieu. J'ai compris que ce que je faisais était contraire à la parole de Dieu. Était contraire à Dieu, même si je ne connaissais pas la parole. Mais j'avais bien compris que ce que je faisais était mauvais. Il y a des choses que tu fais, même si tu ne connais pas toute la parole de Dieu, tu sais que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Tu sais que ce n'est pas bon. Et pourtant, la Bible me dit que Dieu t'aime. J'aimerais que tu prennes juste quelques secondes. Et puis, tu fais comme cela. Bon, tu n'es pas obligé de faire exactement comme ça. Tu fais comme cela et puis tu réfléchis. Réfléchis aux bêtises que tu fais. Réfléchis aux choses que tu fais et qui soient contraires à Dieu. Et puis tu te dis, malgré ça, Dieu m'aime. Est-ce qu'on peut rester juste un petit moment à réfléchir dessus? Réfléchis. Là où dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu le fais quand même, mais tu sais que ce n'est pas bon. Et pourtant, tu te dis, mais Dieu m'aime. Parce qu'il a dit que Dieu a aimé le monde. Et le monde, mes amis, le monde n'aime pas Dieu. Le monde n'aime pas les choses de Dieu. Le monde est contre Dieu. Et la Bible me dit que Dieu l'aime. Alléluia. C'est comme, quelqu'un que tu dis toutes sortes de bêtises sur quelqu'un et puis la personne vient te dire, je t'aime. La personne sait que tu agis mal vis-à-vis d'elle et puis cette personne vient vers toi et te dit, tu sais que je t'aime. C'est exactement ce qui se passe entre Jésus et nous. On pêche. Et le Seigneur te dit, tu sais que je t'aime. Et lorsque je comprends l'amour de Dieu, alors à ce moment-là, ça me donne une force de quoi faire. Eh bien, de revenir à Dieu. Donc la Bible nous montre que le Seigneur, il nous aime et de par son amour, il a préparé quelque chose d'extraordinaire pour nous. Premièrement, le temps de nous acquitter, le temps de nous pardonner, le temps d'amener une réconciliation avec Dieu, ce qui fait de nous un enfant de Dieu, ce qui fait de nous un héritier de Dieu. Vous savez cela? Vous êtes héritier de Dieu. Amen. Ma maman vient de décéder. Eh bien, tout ce qui est sur son compte me revient. Je comprends. Nous sommes huit. ça ne lui revient plus, ça. C'est fini. On ne peut même pas dire c'est l'argent de maman. Non. Je vais dire non, c'est mon argent. L'autre frère va dire c'est mon argent. L'autre, s'il y a une maison, bon, il n'y en a pas, mais il y aurait eu 3, 4, 5, 6 maisons. Il y a une qui m'appartient. Donc, vous voyez, ça, c'est un héritage. Et si j'étais pauvre, eh bien, l'argent qu'elle allait jeter me rend riche, ou tout au moins mieux. Vous comprenez cela? Elle est décédée, elle avait 101 ans, ma maman. Alors, je vais peut-être décéder à 100 ans. J'ai dit à ma femme, tu as encore tout ça de temps pour me supporter. Donc, mes bien-aimés, nous voyons que lorsque Jésus parle de tout cela, de cette bonne nouvelle, il parle du royaume de Dieu ou encore du règne de Dieu. C'est un royaume qui va prendre la place. Ça va prendre la place sur tous les autres royaumes. Et dans Daniel, au chapitre 2, à partir du verset 44, nous voyons qu'il y a, Daniel a une vision. Une vision, tout au moins, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a une vision, il ne comprenait pas, il l'a appelé Daniel. Alors je ne pas dans les détails. Hein. Il a appelé Daniel et Daniel a reçu de même la vision et Daniel lui a expliqué ce que c'est que cette vision. Si on lit tout, on va perdre du temps. Chez vous, vous allez lire tout le chapitre 2 de Daniel. Et au verset 44, il nous a montré donc que c'est une statue. Il voyait une statue. C'est qui représente les différents royaumes, les différents règnes sur la terre. Et puis c'était des royaumes terribles. Et puis, il y a une petite pierre. Il y a une petite pierre qui sort de la montagne. Et cette petite pierre, elle tombe sur cette statue qui l'écrase. Et la petite pierre, toute petite, eh bien, elle prend la place. Alléluia. Elle grossit. Tirez corps là, elle prend la place. Tirez corps là, elle prend la place. Tirez corps là, elle prend la place. Tirez corps, elle prend la place. Donc cette petite pierre, elle va prendre la place. Et cette petite pierre, en fait, c'est le royaume du Christ qui va venir. C'est le royaume de Jésus qui va venir et qui va prendre toute la place. Mes amis, c'est ça la bonne nouvelle. Mais si on n'est pas avec lui, où sera-t-on? Si on n'est pas dans ce royaume, tout à l'heure on chantait Maranatha. Maranatha, le Seigneur est là, encore viens Seigneur. C'est vrai, c'est beau de dire cela. Maranatha, c'est beau. Mais attention, ça peut être aussi dangereux. Parce que lorsque Maranatha a toujours une pensée de séparation, une bonne pensée pour ceux qui sont prêts à entrer dans ce royaume, mais terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. C'est la raison pour laquelle, qu'on le veuille ou pas, cette bonne nouvelle, cette parole, elle va se manifester tôt ou tard. Je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être dans 100 ans encore, je ne sais pas. Mais elle va se manifester. Et lorsque cette petite pierre va descendre, lorsque Jésus va venir pour mettre son royaume, la Bible nous dit, mais toi, tu seras où? Tu seras où? Ce serait bien de réfléchir un instant. De quel côté veux-tu être? Et là, il n'y aura pas de choix. La Bible nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, au 2 Pierre 3, versets 10 à 13, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Donc Jésus va venir pour mettre son royaume. Il va venir pour nous prendre, etc. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Maranatha, tu veux que Jésus vienne maintenant? De toute façon, il va venir. Hein? Que tu le veuilles ou pas, il va venir. Que tu le veuilles ou pas, son royaume sera installé. Mais l'autre royaume, il sera où? Il va être écrasé, il va être détruit. Il nous parle de feu. Alors, ne prenons pas peut-être toujours les choses de façon littérale. Mais de toute façon, il y aura une séparation. Il y aura quelque chose de nouveau. Et c'est ça la bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle-là, Jésus mettra sa domination. Lorsque l'on parle du royaume de Dieu, on parle de la domination de Dieu. On parle du règne de Dieu. Et le règne de Dieu, lorsqu'il vient, il vient avec puissance. Jésus, quand Jésus est venu, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Et quand il est venu avec puissance. Alors je continue, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et là je dis, il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de divorces, plus de fausses grossesses, plus de quoi encore, plus de larmes, plus de deuil. C'est terminé cela. Quand tu vas travailler, tu vas gagner ton argent, tu ne vas pas acheter un terrain, puis c'est un autre qui va venir le prendre, ce sera à toi. Les choses seront changées. Et c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies. Ça, c'est quand ça va venir. Mais aujourd'hui, quel impact? Puisque Jésus est mort pour nous. Puisque Jésus nous a pardonné nos péchés, lorsque nous avons fait ce qui est nécessaire, et on va le dire tout à l'heure. Puisque Jésus, eh bien, son sang a été versé, puisqu'il a combattu, il est rentré dans le combat, il a gagné pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir dire à Dieu, Père, laisse-le. Alors, je vais vous expliquer comment Dieu vous voit. Tant que vous n'avez pas encore accepté Jésus, tant que vous n'êtes pas encore entré dans ce plan, lorsque Dieu vous voit, il vous voit mort. Il vous voit sale. Il vous voit méchant. Mais lorsque vous êtes passé par l'œuvre de Jésus, je vais dire que voilà. Oh. Il vous voit autrement. Donc, tant que vous n'êtes pas passé par l'œuvre de Jésus, il va vous voir sale, il va vous voir mauvais, il va vous voir injuste. Et lorsque vous passez par l'œuvre, alors à ce moment-là, à travers Jésus, Dieu vous voit différemment. Amen. À travers Jésus. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus, quand il est venu sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions. Le péché enlaidit l'homme. Alors je ne parle même pas des choses physiques, mais je parle du cœur. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont très beaux, très belles. Mais le cœur est méchant. Le cœur n'est pas bon, mes amis. Mais quand tu passes par Jésus-Christ, il y a un travail. Même si moi, je ne vois pas encore tout le travail qui a été fait, mais Dieu, quand il te regarde, il voit que c'est bon. Parce que l'œuvre de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mes bien-aimés. Donc, quel impact du royaume dans notre vie? Vous savez, la Bible nous montre que dans 1 Thessaloniciens 2:12, que cela nous permet d'entrer dans la gloire de Dieu. Dieu nous a appelés à sa gloire, nous dit 1 Thessaloniciens 2:12. Dieu nous a appelés à sa gloire. Alors déjà, lorsque je réalise que Dieu m'a appelé à sa gloire, automatiquement, ça aura un impact dans ma vie. Automatiquement, ça aura un impact dans ma vie. Si tu es en train de travailler pour un examen, je ne sais pas moi, aller un doctorat, Et puis, on te dit que tu as, après les épreuves, tu as réussi. Même si tu n'es pas encore entré vraiment dans ta fonction, mais tu vois déjà les choses autrement. Amen. Tu vois que, oh, mon père m'a fait encore. mon père trop serré Saint-Ia. Bien, les choses seront plus faciles pour moi. Mais bien aimé, ça c'est matériel. Mais quand tu comprends l'œuvre de la croix, quand tu comprends ce pourquoi Jésus est venu, alors là, tu dois commencer à vivre différemment. Amen. On va dire que tu vas vivre comme un fils, une fille du roi. Tu vas vivre comme quelqu'un qui est déjà arrivé, alors qu'il a encore à faire, mais il est déjà arrivé. Parce que c'est là, dans le cœur. À partir du moment où c'est dans le cœur, eh bien, automatiquement, ça va me permettre d'avancer. Ça va me permettre de faire les choses différemment. Ça va me permettre de parler différemment. Ça va me permettre de penser différemment. Ça va me permettre de me tenir différemment, etc., etc. Donc, ça va créer automatiquement un impact dans ma vie. Mais l'autre impact que ça va créer dans ma vie, d'ailleurs, le Seigneur le dit, hein, la Bible nous dit, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Cela veut dire que dans la mesure où j'ai compris, je vais toujours me mettre à sa recherche, à comprendre, à avancer dans le royaume de Dieu. Et la Bible me dit que les autres choses me seront données par-dessus, qui veut dire que tout ce dont je pourrais avoir besoin ici-bas pour vivre, ça ne veut pas dire qu'il va me donner richesse, mais il va me donner tout ce qui est nécessaire pour que je puisse vivre, mes amis. Ça, c'est l'impact pour aujourd'hui, l'impact pour maintenant. Combien de personnes qui, alors qu'elles ne connaissaient pas Jésus, elles étaient dans toutes sortes de misères, et quand elles ont commencé à connaître Jésus, quand elles ont reçu Jésus dans leur cœur, eh bien, les choses ont commencé à changer pour elles. Comme je dis, ce n'est pas dit que ce sont des gens qui sont riches, mais les gens sont ont un repos. La Bible nous dit que Jésus est venu pour donner sa vie, il appelle les brebis et leur donne la vie en abondance. Leur donne la vie en abondance. Jésus veut nous donner en abondance. Jésus veut changer notre situation. Jésus veut changer les choses pour nous, mes bien-aimés. Et c'est ça l'impact dans la vie du royaume de Dieu dans notre vie. C'est ça son impact. Et quand je regarde encore dans Matthieu 10, verset 7, 8, le Seigneur a donné un ordre de mission à ses disciples. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Prêchez, dites-le encore que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Mes amis, mes bien-aimés, je ne sais pas qui vous êtes. Hein, je connais quelques bien-aimés, je ne sais pas qui vous êtes, mais je peux vous dire que le royaume de Dieu est proche. Jésus dit que le royaume de Dieu est proche. Et quand j'entends que le royaume de Dieu est proche, eh bien, je dois faire en sorte d'entrer dans ce royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Alors, souvent, on pense que c'est spirituel. Non, 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 non. Ma fille, elle avait un problème, je vous ai déjà parlé de cela. Elle avait un problème à la tête, là. Ça poussait. C'était pas, mes bien-aimés, spirituel quand j'ai demandé la guérison. Je n'ai pas demandé la guérison spirituelle, j'ai demandé la guérison de sa tête. Est-ce que tu es là avec moi? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu voudrais que Jésus fasse pour toi? Je peux te dire que lorsque tu laisses le royaume de Dieu rentrer dans ta vie, le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est non seulement la vie éternelle, mais le royaume de Dieu, c'est un changement de position, un changement de situation. Une situation avec Jésus. Et comme Jésus est mon chef d'alliance, alors tout ce qui appartient à Jésus m'appartient maintenant. Est-ce que tu comprends cela? Tout ce qui appartient à Jésus, ça t'appartient. Tout ce qui appartenait à ma mère, ça nous appartient, mes amis. Tout ce qui appartient à Jésus, comme il est mort, de par sa mort, eh bien, nous recevons tout ce qui appartient. Amen. La mort du testateur. Tant que ma maman n'était pas décédée, moi, pas te payé, moi, regarde, moi, fait ça, moi, les bibes, il y a. Non, 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 c'est détail. Il t'a payé, moi, oui, point, mais il t'a payé, moi, oh, attends, maman. Donc, à partir du moment où Jésus est mort, ça nous permet de recevoir l'héritage. Mais pour cela, il faut que nos noms soient inscrits. La Bible nous dit, dans Apocalypse 21-27, la Bible nous parle d'un registre. Un registre où nos noms sont inscrits. Nos noms seront inscrits dans la mesure où nous avons fait une démarche. Amen. Dans la mesure où nous avons pris une décision. Et aujourd'hui, moi, ce que je t'appelle à prendre une décision pour que ton nom soit inscrit. Ton nom ne sera pas inscrit parce que tes parents sont à l'Évangile. Ton nom ne sera pas inscrit parce que tu viens dans l'Assemblée. Non, non, non. Ton nom sera inscrit quand toi, tu vas prendre une décision que ton nom soit inscrit. Oh, c'est lorsque l'enfant naît, on va à la mairie et puis on l'inscrit. Donc, il fait partie du peuple martiniquais. S'il est dans telle commune, il est parti, moi, c'est Chelchère. Non, enfin, avant, c'est Fort-de-France. Là, il faut y aller. Maintenant, je suis Chelchère, mais avant, c'est là, il faut y aller. Donc, mon nom est inscrit dans le registre de Fort-de-France, de la mairie de Fort-de-France. On sait qu'il y a quelqu'un qui est né le 6-1-56 à Fort-de-France, de M. Zahir, Mme Henri Vette, née épouse Zahir. On sait cela, on me connaît, je peux prouver mon identité. S'il y a des choses, tiens, justement, avec le fait que ma mère soit décédée, lorsqu'il va falloir faire le partage, il faut que j'amène ma carte d'identité, oui ou non? Il faut que je prouve que mon nom est inscrit dans son livret de famille. Il faut que je prouve. Si je ne le prouve pas, à rien pour moi. Mais c'est la même chose pour l'œuvre de Dieu. Si ton nom n'est pas inscrit, à rien pour. Tu as beau dire, on peut dire oui, mais l'héritage, mais je suis au temple, mais ça fait 10 ans que je vis au temple. À rien pour. Ton nom n'est pas inscrit. Mais mon papa était pasteur. À rien pour. Ton nom n'est pas inscrit. Ton nom n'est pas inscrit. Il faut que ton nom soit inscrit. Et pour que ton nom soit inscrit, il faut premièrement que tu crois dans cette bonne nouvelle. Si tu ne crois pas dans cette bonne nouvelle, tu ne feras jamais de sorte que ton nom soit inscrit. Donc, quelle démarche pour que ton nom soit inscrit? Jésus disait, dites-leur, repentez-vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conversion, la repentance et la conversion peuvent, non seulement vont effacer nos péchés, parce que je reconnais l'œuvre de Jésus à la croix, ça va effacer mon péché, et mon nom à ce moment-là sera inscrit dans le livre de vie. Et la Bible nous dit, dites-leur dans Acte 3, au verset 20, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc ça va impacter ma vie. Depuis que je me suis donné au Seigneur, ça a impacté ma vie. Ma vie a changé. Je ne suis pas devenu riche, je ne suis pas riche. Enfin oui, je suis riche, mais c'est dans la banque de mon papa là-haut. Et puis il me donne au fur et à mesure. Il m'a dit, mais non, 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 si moi je bois trop, pourquoi il fait trop de bêtises, pourquoi il doit tenir corps du moins, et pourquoi il met des corps avec trop de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il fait au fur et à mesure, il me donne. Quand j'ai besoin de payer telle chose, d'arranger la voiture, eh bien il me donne. Quand j'ai besoin d'acheter un vêtement, il me donne. Quand j'ai besoin de payer les impôts, il me donne. Vous comprenez? Dieu ne donne pas toujours tout, mais il peut donner au fur et à mesure. Mais ce qu'il nous donne par-dessus tout, c'est la paix. Cette paix que beaucoup n'ont pas. Cette paix que beaucoup n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans cette bonne nouvelle. Ils ne vivent pas selon le royaume de Dieu. Ils ne comprennent pas le royaume de Dieu. Et comme je vous dis, tant qu'on n'a pas compris, eh bien on passe à côté. Donc le Seigneur, il nous appelle à nous repentir. Nous repentir, déjà, qu'est-ce que la repentance en deux mots? C'est déjà le fait. Alors souvent, lorsqu'on prend la repentance, lorsqu'on parle de la repentance, on pense que la repentance, c'est juste, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Ce n'est pas ça, la repentance. La repentance, c'est changer son état d'esprit. La repentance est un changement. Et quand je suis, mon esprit est changé, mes pensées sont changées, alors tout au long de ma vie, je vais marcher selon ce changement. Mais s'il n'y a pas de réelle repentance, je peux chanter, je peux, peut-être même descendre dans les eaux du baptême. Et puis ça n'a aucun impact dans ma vie. Pourquoi ? Parce que ma repentance n'est pas sincère. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que parfois, le peuple d'Israël qui revenait à Dieu, il revenait, mais en définitive, il n'y avait rien. Et le Seigneur leur disait dans l'un des psaumes, « Mais votre repentance, elle est fausse. Vous me dites, vous dites pardon, vous dites, mais en fait, c'est faux, parce que vous gardez cela encore dans votre cœur. Vous gardez ces idoles dans votre cœur. Il faut mettre une séparation. La repentance me donne à me séparer de ce qui ne va pas. La repentance me donne à transformer ma pensée, mon imagination, ma manière de voir, ma manière de faire. Et à partir du moment, et si je reviens à la personne qui a réussi son doctorat, elle marche différemment. OK? Elle pense différemment. Elle voit les choses différemment. Surtout lorsqu'elle a commencé à entrer dans sa fonction. Pourquoi ? Parce que ça va lui donner des possibilités. Et à partir du moment où ça lui donne des possibilités, déjà elle entre dans une position de docteur. Alléluia. Et là, aujourd'hui, quand tu reçois Jésus, tu rentres dans une position d'héritier. Tu rentres dans une position d'enfant de Dieu. Tu rentres dans une position de fils ou de fille de Dieu. Tu rentres dans une position de disciple de Jésus. Et ce qui appartient à Jésus appartient à son disciple. D'accord ? Et le dernier point, Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La foi, c'est ce qui est nécessaire pour nous permettre d'avancer. Si nous ne croyons pas à cette bonne nouvelle, nous pouvons jusqu'à faire ces démarches. Oui, je me baptise. Oui, je me rends. Mais au fond, on ne croit pas. Lorsqu'on croit, ça nous donne encore à avancer. La foi est une ferme assurance. La Bible nous montre que mon juste marchera par la foi. Et j'aime dire que la foi, c'est une loi. Pas une loi raide, rigide. Dans le sens que par la foi, Dieu, c'est par la foi, il veut que tu marches. Et par la foi, tu vas réussir. Par la foi, tu vas gagner. Par la foi, tu vas pouvoir dormir en paix. Par la foi, tu vas sortir vraiment, je vais dire, dans ton tombeau spirituel qui te retenait. Par la foi, l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour cela. Amen. Alors ce matin, je t'appelle vraiment à prendre une décision avec Jésus. Je t'appelle vraiment à faire en sorte que ton nom soit inscrit dans son livre de vie. C'est sûr que lorsque notre nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu, c'est sûr que on ne peut plus vivre de la même manière. Dieu nous aide. Oui, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, mais Dieu nous aide à continuer. L'idée de Dieu, c'est déjà qu'on mette un pied. Et même si tu n'es pas encore très fort, très forte dans les choses du Seigneur, mais tu es quand même héritier. Tu appartiens quand même à Dieu. Tu es membre du royaume. Et partout où tu marches, c'est le royaume de Dieu qui marche avec toi. Partout où tu vas, le royaume de Dieu est avec toi. Et le diable même n'aura pas de pouvoir sur toi. Bon, il va te mettre une petite peau de banane pour que tu te casses les jambes, mais il ne va pas pouvoir voler ton âme. C'est fini, c'est terminé pour lui. Dieu l'a mis dehors. Il n'a plus ni part ni lot dans ta vie. C'est terminé, dehors. Parce que tu es membre du royaume de Dieu. Est-ce que tu veux le devenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui, qui prend conscience de cela et qui veut me dire, moi, je veux entrer dans ce royaume-là. Je veux que mon nom soit inscrit. Et nous allons prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Que Dieu te bénisse. Nous allons prier avec toi. Est-ce qu'il y a une autre personne? Que Dieu te bénisse. Nous allons prier avec toi. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Moi, je veux entrer dans ce royaume. Je veux prendre la décision. Vous pouvez baisser la main. Je vais vous appeler tout à l'heure, on va prier. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre cette décision d'entrer dans ce royaume? Et nous allons vous aider à faire une simple prière de repentance. Et nous allons prier avec vous, demander au Seigneur sa grâce sur vous. Le Seigneur peut changer certaines choses instantanément.